Radio Primitive.
Engagé pour l'éducation populaire.
Ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, eh bien, nous sommes en direct. Normalement, on devait avoir une interview, mais on téléphonait avec quelqu'un de Calais par rapport à ce qui se passe là-bas. On y reviendra tout à l'heure. Ça n'a pas pu être possible, mais ce n'est point grave puisque on a les informations. Et en premier, on va vous parler de Nantes révoltée. Nantes révoltée, comme vous savez certainement, c'est le groupe de Nantes qui est menacé par Darmanin d'être tout simplement exclu, d'être banni.
Dissous. Oui, on en a parlé assez longuement la semaine dernière où tu as lu le communiqué qu'avait fait le collectif qui édite cette revue et qui anime la page Facebook et les sites internet en relation avec la publication Nantes révoltée. Et donc là, on vous propose à l'écoute une interview d'une demi-heure des deux avocats du collectif, Ainhoa Pascal et Raphaël Kempf, qui se proposent de revenir sur la tentative, puisque les avocats vont le dire, pour le moment, ils n'ont rien reçu. Effectivement, ils n'ont rien reçu parce qu'il semble l'incompétence se marie avec l'outrance, comme c'est souvent le cas avec ce gouvernement, puisque autant dissoudre un groupe politique ou une association est tout à fait possible avec les lois de la République. quand on fait pas son travail et que on n'a pas les bonnes fiches, puisqu'on gouverne avec des fiches, on sait pas que Nantes révoltée c'est pas un groupe politique, c'est un collectif éditorial. Donc là, forcément, c'est autre chose. Et d'ailleurs, il est assez sain de voir que cette tentative assez grossière de Darmanin pour jouer les gros bras à peu de frais a rencontré une assez vive réaction de la part, on va dire, de multiples acteurs, notamment des acteurs de la presse. Je pense notamment à communiqué du SDJ, puisque dans l'hypothèse où il arriverait à ses fins, ça impliquerait et provoquerait un précédent assez grave, assez important.
Ça remettra en cause la loi de 1881, je crois.
Ouais.
La loi sur la presse. Là, c'est bon, quand tu touches à ça, attention quand même. Ça risque difficile d'assumer, quoi.
C'est ça. Et quelque part, comme une sorte de judo politique, comme on aime assez bien le faire lorsque on a envie de créer des rapports de force, il serait intéressant que le ministère de l'Intérieur aille jusqu'au bout de sa démarche pour se faire tataner dans les tribunaux d'une part, et puis d'autre part, que ça recrée un débat à l'intérieur de la société avec la possibilité de la construction d'un rapport de force sur justement qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression et qu'est-ce que c'est que nos rapports avec l'État. Aujourd'hui, on vit dans un État qui est vraiment de plus en plus... Enfin, il n'y a pas une gradation, puisque c'est la nature de l'État de pas être, garant de nos libertés, mais garant de la liberté de ceux qui dominent et des bourgeois et de ceux qui exploitent, hein. Faut surtout pas oublier. Et d'ailleurs, il y a eu un espèce d'aveu de la part du président de la République qui a bien reprécisé les choses au cours des entretiens de la fin de l'année dernière et du début de cette année. C'est-à-dire que nous, on a que des devoirs, hein, par rapport à l'État. Après, éventuellement, s'il veut bien nous donner quelques droits, on pourra en profiter. Mais bon, voilà, ça serait intéressant de le voir aller. Alors, je me tais parce que l'interview est beaucoup plus intéressante, puisque ce sont des spécialistes du droit qui le font, qui vont être beaucoup plus précis et pédagogiques que moi avec mon baratin. Et puis, on se retrouve dans une demi-heure pour parler de Calais, parce que... alors, on va pas parler de Natacha Bouchard, évidemment. On va rien à cirer. Des mercato de présidentiel, mais... il y a des choses qui bougent et des choses qui bougent qui nous intéressent parce qu'il y a du mouvement et il y a des gens qui, là aussi, essayent de créer du rapport de force. Allons-y pour le son.
Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Notre révolté démarre en 2012. Au départ, c'est une page Facebook, puis une revue, puis une page Facebook et une revue, etc. Ce sont des gens qui... publie depuis donc une dizaine d'années énormément d'articles étayés, engagés, certes, mais étayés, comme documentés. On leur doit notamment sur Steve Maya Canisso un travail absolument considérable. Il est très clair que sans le travail de Notre Révolté, on n'en serait pas là. C'est notamment Notre Révolté qui avait récupéré les images de ce qui s'était passé quai de Loire à Nantes. Et la semaine dernière, Gérald Darmanin a annoncé la dissolution du groupe Nantes Révolté.
Juste là, David, tu as dit que Gérald Darmanin, qu'est-ce qu'il reproche au groupe Nantes Révolté et
l'usage
du groupe.
J'ai fait
voilà,
exprès.
Il est vraiment pas inintéressant parce que les qualificatifs n'ont vraiment pas manqué pour désigner Nantes Révolté de la part du gouvernement notamment et ensuite beaucoup de la presse. On a entendu parler de groupe, on a entendu parler de groupuscule, on a entendu parler de groupement de faits, qui est le seul terme juridique applicable, de collectif. On a un peu tout entendu et on ne sait toujours pas, et Gérald Darmanin n'a pas l'air de savoir non plus, ce qu'est en réalité Nantes Révolté.
L'annonce de Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale a été un peu rapide. Il s'est fondé, pour l'essentiel, il a fait référence à une manifestation qui a eu lieu à Nantes le 21 janvier, manifestation au cours de laquelle apparemment des dégradations ont été commises. Et donc, ils se fondent sur cette manifestation pour venir expliquer qu'il faudrait dissoudre Nantes Révolté. Parce que David, tu as dit tout à l'heure, oui, Darmanin dissout Nantes Révolté. Non, Darmanin annonce l'enclenchement, je reprends ces termes, du contradictoire en vue de la dissolution de Nantes Révolté. Donc, ça fait quand même... on est dans l'intentionnalité de l'intentionnalité. Mais bon, ça fait déjà pour nous, Darmanin, une forme de coupable, hein, d'avoir cette intention-là. Donc, en gros, Darmanin, il arrive à l'Assemblée nationale, puis il dit « je vais engager le contradictoire ». Donc, le contradictoire, c'est le terme technique, juridique, pour dire « j'engage la procédure de dissolution dans le cadre d'un débat contradictoire avec Nantes Révolté ». Seulement, il dit qu'il le fait, mais en fait, il ne l'a pas fait. Il va dire « pourquoi je le fais ?» Parce que Nantes Révolté a appelé à la manifestation du 21 janvier au cours de laquelle des dégradations, des violences ont été commises. Donc déjà sur le plan du raisonnement juridique, il y a quelque chose qui est extrêmement inquiétant et tout à fait particulier, c'est-à-dire que quelqu'un qui relaierait ou même qui appellerait à une manifestation en disant bah, « il y a une manifestation tel jour, à telle heure et à tel endroit pour telle raison » et que ultérieurement au cours de cette manifestation, des infractions pénales étaient commises comme par exemple des violences ou des dégradations, eh bien la personne qui a appelé à la manifestation pourrait être dissoute. Ça, c'est le raisonnement que propose Monsieur Darmanin.
C'est pas aussi précis que ça lors de sa déclaration à l'Assemblée. Donc il faut rappeler un peu le jeu, c'est-à-dire que il y a une députée qui pose une question, le ministre a déjà sa réponse. Tout ça c'est de la comédie humaine, on va dire. Tout ça est préparé, mais sa réponse elle est pas très claire en réalité.
Oui, on s'est retrouvé à réécrire l'histoire un peu a posteriori parce que en réalité, c'est les propos de quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle et de qui il parle. Enfin, il a eu un raisonnement très rapide en parlant de cette manifestation, de ce groupement de faits, on ne sait pas trop, pour ensuite conclure que la dissolution allait être engagée. Mais même là, quand il a annoncé que le contradictoire est engagé, qu'il y avait maintenant que désormais Nantes et Voltaire avaient 15 jours pour répondre, tout ça est absolument faux. En fait, il y a rien qui se tient dans les propos de Gérald Darmanin. Ça ne tient pas sur ce qu'est Nantes révoltée, ça ne tient pas sur ce qui lui est reproché et ça ne tient pas non plus sur la procédure, puisque dans la mesure où Nantes révoltée n'a pas reçu de lettre de grief, hein, on pourrait appeler ça de courrier qui l'informerait de ce qui lui est reproché, il n'y a pour l'instant aucune procédure qui tienne.
Alors évidemment, je ne suis pas procureur, mais j'aime surtout avec des avocats être l'avocat du diable. Pourquoi faire une annonce aussi merdique ?
Je pense qu'il faut analyser ça dans le cadre du champ politique nantais, où il y a des luttes politiques locales dont Nantes révoltée fait l'objet de façon épisodique depuis plusieurs années et à plusieurs reprises des personnages politiques locaux insistent sur le fait que Nantes révoltée pourrait être un groupement, etc., de dangereux antifa, black bloc, etc. Enfin, c'est le genre de vocabulaire qui est employé. Donc là, à la suite de la manifestation de vendredi dernier, certains élus locaux y ont vu une opportunité pour faire monter le sujet et exiger quelque chose du ministre de l'Intérieur. Alors, ces élus locaux, ce sont la présidente Les Républicains de la région Loire-Atlantique, Madame Opel, qui est députée, et le fameux François de Rugy.
Christelle Morancé, je demande à Gérald Darmanin d'engager une procédure à l'encontre du groupement de fait de l'ultra-gauche Nantes révoltée et groupement affilié en vue de leur dissolution. Il faut quand même rappeler qu'elle est porte-parole de Valérie Pécresse. On est quand même à un niveau d'élection présidentielle. Mais mine de rien.
Oui, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a donc une opposante politique au gouvernement en place qui met la pression sur Darmanin, sur sa droite,
c'est ça.
En lui disant « vous n'êtes pas assez répressif, allez dissoudre ces antifas, cette ultra-gauche, etc. » parce que la désignation d'un ennemi est pour l'État, toi David, tu le sais parfaitement, est pour l'État et le gouvernement un moyen de convaincre une clientèle politique. Ce qui est intéressant sur l'analyse politique, c'est que la maire de Nantes, qui pourtant est très opposée aux manifestations, très critique de ce que je vois de Nantes révoltée, Johanna Roland, n'a pas soutenu cette demande de dissolution. Donc là, sur le champ de l'analyse politique, il y a quelque chose d'intéressant à examiner. Voilà. Mais de façon générale, plusieurs élus y ont vu, à mon avis, un coup à jouer en demandant ça.
Elle de Valérie Opelt. Alors elle, je ne la connaissais pas. Hein. Donc on a La République en marche d'un côté, Les Républicains de l'autre, qui ensemble demandent la dissolution de Nantes révoltée. Pourquoi ça agit maintenant ? Parce que des manifestations à Nantes non déclarées, dont le journal Nantes révoltée relaie l'appel, ça fait 10 ans, je veux dire. Donc pourquoi aujourd'hui ?
Pourquoi aujourd'hui précisément, hormis le contexte politique et l'approche des élections présidentielles, j'ai pas d'explication particulière, mais ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que c'est pas la première fois que Nantes révoltée est dans le viseur et dans le collimateur des députés locaux. Déjà en 2016, il y avait eu un peu une tentative de vouloir faire taire, je vais dire ça comme ça, Nantes révoltée. Et donc là, on est un peu sur un retour. Alors vraiment, cette manifestation, elle avait en plus, enfin, qui s'est tenue là le 21 janvier, elle avait rien de rien de particulier en réalité. Surtout, ce n'est absolument pas Nantes Révoltée qui a organisé cette manifestation, ni même qui a réalisé, rédigé l'appel. Elle a relayé cet appel qui a été fait par d'autres collectifs. Ça suit un peu une longue procédure qui a été entamée déjà dès 2016. Alors procédure pas au sens juridique, hein, mais au sens intellectuel, c'est-à-dire que ça fait depuis 2016 que Nantes Révoltée dérange. Je pense que c'est vraiment le bon terme. Là, on a vraiment un exemple typique d'utilisation politique d'une procédure.
François de Rugy mène également la bataille. Il tweete lors de la séance des questions d'actualité d'Assemblée nationale. Ma collègue de Nantes, Valérie Opelt, va demander en notre nom des mesures pour que ne perdure pas le climat d'impunité autour des manifestations violentes de l'extrême gauche. Nantes Révoltée. Donc il faut rappeler qu'il y a entre Nantes Révoltée et de Rugy une sorte de passion, et notamment Nantes Révoltée avait relayé pas mal d'actions contre de Rugy lors de la fameuse affaire du homard. Mais au-delà de ces rigolades, qu'est-ce que ça nous dit tout ça?
Ça nous dit qu'on est face à un régime qui, à mon avis, est de plus en plus autoritaire, qui méprise les libertés. Là, on voit qu'il méprise la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de la presse. Ça nous dit qu'on a un gouvernement qui supporte de moins en moins toute forme de contradiction. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait une forme de, de liberté d'expression autorisée par l'État. D'une certaine manière, il y a la bonne liberté d'expression et la mauvaise liberté d'expression. Ce qui est contradictoire, parce que le principe de la liberté d'expression, que ce soit en droit ou dans le sentiment intime que chacun peut en avoir, le principe de la liberté d'expression, c'est que ça doit protéger même les idées avec lesquelles on n'est pas en accord. Donc là, on a effectivement un média, Nantes Révoltée, qui a un style parfois un peu pamphlétaire, un peu drôle, un peu piquant, et c'est son droit. Et en France, heureusement, on a dans la presse une tradition historique de médias très engagés, d'ailleurs sur tout le champ politique, qui parfois n'y vont pas par le dos de la cuillère. Donc Nantes Révoltée s'inscrit dans cette tradition-là, dans cette lignée-là. Et à côté de ça, ils font aussi un travail. Alors, ils n'ont pas de carte de presse, mais parfois un travail qui s'apparente à un travail de journaliste. Et des interviews, des formes de reportages. Pour répondre à ta question, ce que ça dit de ce régime-là, c'est que ça confirme cette intuition que nous avions déjà depuis quelques années, à savoir qu'on est face à un régime qui peut être qualifié de libéral autoritaire, de libéralisme autoritaire, pour reprendre l'expression d'un philosophe qui s'appelle Grégoire Chamaillou et qui a travaillé sur l'origine du néolibéralisme et du libéralisme. Et c'est tout à fait intéressant.
Didier Martin, préfet de Loire-Atlantique, donc de Nantes, nous dit « C'est bien gentil de nous rappeler que la procédure de dissolution d'un groupement de fait existe dans les textes, mais il n'a pas échappé à mes prédécesseurs ni à moi-même qu'elle n'a pas été activée à ce jour et que ce n'est pas aussi simple qu'on peut le penser. Par exemple, si Nantes Révoltée est considérée comme un média, on est confronté au respect de la loi sur la liberté de la presse », a-t-il déclaré ce mardi 25 janvier, selon Ouest France, peu avant la déclaration du ministre de l'Intérieur. Il n'a pas tort, là, le préfet.
Ah non, il a même totalement raison, et c'est le seul d'ailleurs qui a été un petit peu lucide sur ce qu'est en réalité Nantes Révoltée, à savoir un média, et que dans ce contexte-là, le fait que ce soit un média, ça pose d'autres questions pour sa dissolution que si c'était un groupement de faits qui serait constitutif d'une milice ou d'un groupe armé, pour le dire de manière un petit peu large. Alors effectivement, le fait que Nantes Révoltée soit un média, je pense que c'est bien quand même de le rappeler. Ça ne fait aujourd'hui absolument pas débat. Il y a quand même eu un nombre de soutiens très important de la part d'autres organes de presse qui tendent à considérer vraiment Nantes Révoltée comme un des leurs, comme leur père. Encore hier, il y a le SNJ qui a publié un communiqué en disant « Nantes Révoltée aujourd'hui et qui d'autre demain ?» Nantes Révoltée est considérée comme un média. Et nous, on a évidemment vérifié en long, en large et en travers. Il n'y a jamais de procédure de dissolution qui est concernée un média. Donc, ce serait vraiment une première que le gouvernement ose se lancer dans cette démarche-là, avec toutes les difficultés que ça implique, puisque en principe, alors je dis de manière un petit peu générale, quand il y a des procédures de dissolution qui sont entamées, on met en balance la protection de l'ordre public, les troubles qui pourraient être causés à l'ordre public et la liberté d'association. éventuellement la liberté d'expression. Mais là, avec la dissolution d'un média, vous avez des nouvelles libertés auxquelles il serait porté atteinte, à savoir la liberté, bon, la liberté d'expression encore toujours, mais la liberté aussi de la presse. Et ces libertés-là, elles sont censées être d'autant plus protégées dans une démocratie. Et porter atteinte à ces libertés-là, il faut vraiment que de l'autre côté, les intérêts qui sont en balance, les troubles qui sont causés à l'ordre public, soient d'autant plus graves et d'autant plus avérés. Et c'est évidemment là que le gouvernement aurait des difficultés à démontrer, de la part de Nantes Révoltée, du média Nantes Révoltée, des troubles graves à l'ordre public.
La loi sur la presse, la loi de 1881, est-ce qu'on peut revenir dessus? Parce que, en fait, contrairement à son intitulé, elle concerne la liberté de tout le monde, la liberté d'expression.
La loi de 1881 sur la liberté de la presse, c'est une loi qui, à l'époque, a été une loi extrêmement importante parce qu'elle a supprimé notamment la censure préalable. C'est-à-dire l'idée que avant de publier un article de presse, un journal ou quoi que ce soit, il faut pouvoir le montrer au gouvernement. C'est ensuite une loi absolument capitale parce qu'elle a dit que pour les délits de presse, il ne fallait pas que les personnes puissent être envoyées en détention provisoire. La détention provisoire, c'est la détention d'aller en prison avant son jugement, ce qu'on appelle dans le vocabulaire courant, on va dire la préventive. Et cette loi a aussi dit que les délits de presse devaient être examinés par un jury populaire, c'est-à-dire des citoyens tirés au sort devant des cours d'assises. Donc tout ça, c'est des formes de garanties qui ont été posées par cette loi dans le but de protéger la liberté de la presse et la liberté d'expression de tous les citoyens. Ce qui est intéressant quand on lit la loi de 1881, c'est-à-dire qu'elle s'appelle, comme tu dis, loi sur la liberté de la presse, mais en fait, elle vise l'intégralité ou la quasi-intégralité des formes d'expression, qu'elles soient orales, écrites par des gestes, par des placards, par des affiches. Elle vise l'ensemble de ces modalités d'expression dans l'espace public. Cette loi, elle a une histoire capitale. Elle protège la liberté d'expression de tout un chacun. Et aujourd'hui, il y a une tendance qui est accentuée par ce gouvernement, tendance à restreindre le champ d'application de cette loi et donc, selon moi, à limiter la protection de la liberté d'expression.
Loi de 1881 dont les juristes, enfin peut-être pas les juristes, mais les législateurs appellent, c'est une loi totem. Hein, ils disent c'est une loi totem, donc c'est une loi hautement symbolique, intouchable. Et en fait, on a vu qu'avec la loi sur la sécurité globale, enfin qui était appelée loi sécurité globale, il y avait déjà une tentation d'essayer de lui donner des coups de butoir. Est-ce que par exemple l'annonce donc qui semble, on a compris, un peu confuse, de Darmanin contre Nantes Révoltée, c'est la suite de ça?
Très sincèrement, je pense que quand l'annonce est faite, Gérald Darmanin n'a pas connaissance ou n'a pas conscience du fait que Nantes Révoltée, ce n'est pas un groupement de faits qui organise des manifestations et qui commet des dégradations en manifestation. Je pense que il y a eu vraiment une erreur de leur part. Alors une erreur qui est quand même fautive, hein, puisque c'est évidemment bien de se renseigner avant de faire des grandes annonces devant la représentation nationale. Mais je pense que si là on n'a pas de nouvelles du gouvernement, c'est parce qu'il y a quand même une prise de conscience qu'il s'attaque à un média et que donc il risque de s'attaquer aussi à la liberté de la presse. Si la procédure était engagée contre Nantes Révoltée, qui est un média, alors là, on pourrait effectivement encore ajouter cette atteinte à la liberté de la presse aux nombreuses autres qui ont été déjà commises par ce gouvernement. Il y a quand même eu des entraves à la liberté de la presse, à l'exercice de la profession de journalisme dans le cadre des manifestations où les journalistes ont été d'abord visés expressément par les forces de l'ordre ou qui ont été blessés très fréquemment en manifestation. La loi ultérieure sur le maintien de l'ordre qui a quand même exclu de manière significative les journalistes un petit peu des manifestations. Et puis, on a aussi un autre précédent dans les atteintes à la liberté de la presse. Lorsque on a eu des journalistes convoqués à la DGSI, c'était également une première hein, sur des enquêtes qu'ils avaient menées. Donc, les atteintes à la liberté de la presse, elles ne manquent pas dans ce gouvernement et je ne doute pas qu'il y en aura d'autres. Par contre, là, sur la question de la dissolution de Nantes Révoltée, ce sera une nouvelle étape qui sera franchie si la procédure est effectivement engagée.
Vos clients, Nantes Révoltée, ont-ils reçu quoi que ce soit ? puisque Darmanin a dit qu'ils auraient 15 jours.
Non, non, non. Le gouvernement a la libre disposition du temps en ce qui concerne l'enclenchement de la procédure de dissolution. C'est lui qui fixera le délai qu'il offrira à Nantes Révoltée pour répondre. Donc là, pour l'instant, on peut le dire de manière absolument catégorique, la procédure de dissolution n'est pas engagée, n'est pas enclenchée dans la mesure où Nantes Révoltée n'a reçu aucune lettre de grief, aucun courrier qui l'informerait de l'ouverture de cette procédure.
La fronde qui s'est engagée contre cette dissolution, avec une pétition où il y a énormément de gens, j'avais regardé, enfin j'irai voir tout à l'heure, ouais, 37 000 signatures, les syndicats de journalistes qui peu à peu se bougent, quelques titres qui disent quand même là il y a un problème. Est-ce que vous pensez que ça agit ou pas? Ou est-ce que tout ça, pour le dire autrement, de manière peut-être plus politique, est-ce que tout ça, finalement, le fait qu'on fasse cette émission, qu'on prenne ça au sérieux, n'alimente pas en fait cette peur qui est agitée par Darmanin, par les députés dont on a vu les noms tout à l'heure, etc. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'ils n'ont pas déjà gagné le fait même d'agiter une menace qui, a priori, si on vous en croit et on vous croit, n'a pas de fondement juridique, quoi. Sauf à toucher une loi.
Moi, je suis d'un naturel optimiste. Hein. C'est-à-dire que je pencherais plutôt pour la première option. C'est-à-dire que là, ce qui s'est passé en une semaine, c'est quand même très étonnant. Je pense que Nantes Révoltée ne s'y attendait pas, ses avocats ne s'y attendaient pas. Moi, je trouve ça, politiquement intéressant, politiquement réjouissant, que un grand nombre de personnes, comme le SNJ, comme des rédactions, comme des syndicats, comme la coordination des médias libres. Même Edoui Plenel a fait un tweet sur Nantes Révoltée. Je suis très heureux personnellement et comme citoyen qu'un grand nombre de gens se lèvent et disent non, on ne peut pas interdire une page Facebook, un média qui communique des informations sur tout un tas de sujets. Donc ça, moi, je trouve que le premier point, c'est quelque chose qui est assez réjouissant. Et qui participe de ce débat qui existe en France depuis plusieurs années sur la définition de qui est journaliste et qui ne l'est pas, qui a le droit légitimement de dire quelque chose dans l'espace public et qui n'a pas ce droit-là. Juridiquement, on peut être journaliste sans avoir de carte de presse.
Je sais aussi de sources sûres qu'une procédure de dissolution avait déjà été envisagée en 2019 contre Nantes Révoltée et que finalement elle n'avait pas été menée à terme puisque ils avaient peur de ne pas pouvoir être juridiquement dans les clous. Donc il n'y a rien qui a changé depuis 2019 concernant Nantes Révoltée, si ce n'est que ce média a pris de l'ampleur et qu'il est suivi par de plus en plus de personnes. On n'a pas besoin d'être détenteur d'une carte de presse pour avoir le titre de journaliste, hein, puisque sinon les rédactions de la plupart des médias nationaux seraient privées, dépourvues de journalistes, parce qu'en réalité, très peu sont détenteurs de la carte de presse, puisque c'est avant tout une question de revenus et de ressources. C'est-à-dire qu'il faut tirer toutes ces ressources et ces revenus. La majorité, pardon, de la production d'informations. Donc, tous les journalistes n'ont pas de carte de presse. Et du coup, on ne peut pas dire que Nantes Révoltée ne serait pas un média, parce que les personnes qui y participent ne sont pas journalistes. Sur la qualification de média, il y a une définition qui a été donnée par le rédacteur en chef de Street Press qui dit un média, il produit de l'information et ce que fait Nantes Révoltée, c'est produire de l'information. Et donc, à ce titre-là, c'est vraiment un média. Et donc, le gouvernement est, à mon sens, dans une impasse.
Il existe quand même, justement par la loi sur la presse de 1881, tout un tas de procédures pour embêter un journaliste ou pour faire valoir le droit. On peut l'attaquer pour diffamation, etc., etc. Pourquoi là, c'est carrément la dissolution?
La volonté d'engager la procédure de dissolution, c'est vraiment l'aveu de l'absence de griefs réels et sérieux qui pourraient être faits à Nantes Révoltée sur le plan judiciaire et sur le plan pénal. Si Nantes Révoltée publier des informations, des articles qui seraient passibles de sanctions sur le fondement de la loi sur la presse, alors le gouvernement les procureurs n'hésiteraient pas à engager des poursuites, ce qui n'est absolument pas le cas. Et de même, si Nantes Révoltée appelait à des manifestations violentes, appelait à commettre des dégradations en manifestation, ça pourrait également être poursuivi sur le plan pénal, et ce n'est pas le cas. Et c'est donc un aveu absolument réel et sérieux de l'absence, en réalité, de faits répréhensibles qui peuvent être imputés à un entrée voltée.
Et d'ailleurs, je pense que cet argument est d'autant plus sérieux que ce gouvernement et ses procureurs, dont on rappelle au tweet chose que ce ne sont pas des magistrats indépendants, ce gouvernement n'hésite pas à poursuivre les propos qui lui déplaisent. La jurisprudence, de façon générale, des tribunaux concernant la liberté d'expression est quand même assez protectrice. Il faut bien le dire. Oui. Et d'une certaine manière, Gérald Darmanin, en annonçant la dissolution et en utilisant la vieille loi de 1936 sur la dissolution des groupes de combat, d'une certaine manière, Gérald Darmanin cherche à contourner la loi sur la liberté de la presse qui offrirait beaucoup plus de garanties. Et comme le dit Aïnois, Nantes révoltée n'a pas fait l'objet de poursuites. Alors, on peut pas dire d'un côté, on va vous dissoudre parce que, soi-disant, vous provoquez à la violence, et de l'autre, ne pas offrir à Nantes révoltée les garanties de la liberté, de la loi sur la liberté de la presse, et donc d'un procès devant un tribunal indépendant. Je sais pas si ça c'est clair, mais il y a un contournement de procès du droit.
Vous parliez tous les deux du SNJ, Syndicat National des Journalistes. Il est écrit quand même cette phrase que la dissolution d'un média, qui serait donc une première depuis 1945, constituerait une grave atteinte à la liberté d'informer et d'être informé, à la liberté d'opinion, à la liberté d'expression. Avez-vous fait des recherches en ce sens? Et est-ce qu'en effet, depuis 1945, aucun média n'a été dissous en France?
Aucun.
Est-ce que vous, par exemple, en tant qu'avocat, vous pourriez défendre au nom de la liberté d'expression les OAF Paris, les je sais pas quoi?
Alors, moi, j'aimerais juste faire une petite précision parce que, effectivement, il y a récemment beaucoup de groupes d'extrême droite qui ont été dissous sur le fondement de la loi de 1936.
Voilà.
Mais il faut quand même regarder au regard de quels articles, quelles dispositions ces groupes-là, ils ont été dissous. C'est au regard de deux alinéas de la loi de 1936. C'est le numéro 2 et le numéro 6. Le numéro 2, il parle des groupes armés, donc des milices privées. Et donc, ça reproche au groupement de fait d'être constitué en milice, en groupe armé, avec une structure hiérarchique, avec des séances d'entraînement au combat, etc. Et sur le fondement du sixième de cette loi, qui est la provocation à la haine et à la discrimination. Et dans le cadre de la procédure qui serait menée contre Nantes révoltée, ces deux accusations-là, elles ne peuvent pas être portées. C'est-à-dire qu'il n'est pas reproché, même quand on entend les membres du gouvernement s'exprimer, enfin, ou les membres de la majorité s'exprimer sur une volonté de dissolution de Nantes révoltée, on ne leur reproche jamais d'être constitués en milice de combat, pas plus qu'on ne leur reproche des provocations à la haine et à la discrimination. Donc, on est quand même sur un cas de figure qui est complètement différent.
Moi, personnellement, même si on me le demandait, je ne défendrais pas des groupes d'extrême droite. Ceci étant, la critique
pourquoi
est...
Pourquoi?
Parce que je ne partage pas les aspirations et les convictions politiques des groupes d'extrême droite. Et à un moment donné, on peut faire son avocat, il y a plusieurs manières de le faire, hein, et toutes sont légitimes et entendables. Mais moi, la manière dont j'ai choisi de faire mon métier, et on pourrait avoir des débats très longs sur cette question, mais c'est pas l'objet, c'est de défendre aussi des gens, pas avec qui je suis toujours en accord, mais qui sont dans des aspirations proches de celles qui peuvent être les miennes. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je ne vais pas défendre de policiers violents, par exemple, ou de policiers, je ne vais pas défendre de groupes d'extrême droite. Voilà, c'est un choix personnel qui m'appartient et c'est mon droit et ma liberté.
Raphaël, c'est tout à fait ton droit et ta liberté, et je trouve ça super que tu puisses l'exprimer, mais je trouve intéressant aussi qu'on aborde ces questions-là. N'est-ce pas une manœuvre de Darmanin, et non pas une erreur d'appréciation, de menacer d'entrée révoltée, de dissolution, pour voir les réactions et savoir si oui, il peut continuer dans ce sens pour d'autres médias?
Oui, c'est de la stratégie politique. Est-ce qu'on peut parler de ballon d'essai? Je sais pas, mais c'est sûr que ce gouvernement essaye en permanence d'aller toujours plus loin et voit jusqu'où il peut aller.
C'est terrible parce qu'on en aurait presque souhaité que la procédure soit effectivement lancée pour qu'on puisse voir en fait réellement quels étaient les reproches que le gouvernement entendait faire à Nantes révoltée et sur quel terrain ils entendaient se placer pour dissoudre ce média, parce que là nous on en est réduit à des hypothèses et à des conjectures, et en réalité c'est C'est très désagréable. C'est sûr que c'est une menace que le gouvernement fait peser. Ce qui est certain, c'est que si le gouvernement entendait faire peur à Nantes révoltée et faire peur aux autres médias, je crois que ce qu'il a provoqué, c'est en réalité la réaction inverse, puisque il a fait un coup de publicité énorme à Nantes révoltée. En plus de ça, il a permis un soutien de l'ensemble de la profession, et donc en réalité, il a mis en avant et il a généré une forme de solidarité entre les médias indépendants, mais pas que entre les médias indépendants, également entre les médias indépendants et les organes de presse plus majoritaires. Ce qui est terrible, c'est qu'on n'aurait pas dû avoir à traiter ce genre d'épisode. En fait, le fait même que le gouvernement entendent s'attaquer à un média, c'est déjà, même si la procédure n'aboutit pas ou même s'il ne va pas jusqu'au bout, c'est déjà en réalité trop tard, parce que le signal que ça envoie est grave et relativement déplorable.
Merde, je voulais qu'on finisse sur une note gaie, une note de combat, mais voilà. Merci beaucoup à vous deux.
Bah, merci à vous.
On nous demande comment aider Nantes révoltée. Est-ce qu'il y a une cagnotte
Alors, vous pouvez signer la pétition de soutien, et je crois qu'ils mettent en vente je suis sûre qu'ils mettent en vente des revues papier. Donc, c'est possible de les aider en achetant ces revues-là.
Merci beaucoup à tous les deux, et donc à très bientôt au poste.
Merci,
à bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao.
We'll be right back.
Je crois que par rapport à ce qu'on a écouté tout à l'heure, tu as une information à donner sur la source.
Oui, c'est vrai, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Oui, c'est une interview que j'ai piquée sur la chaîne Twitch de David Dufresne. David Dufresne qui est ce journaliste qui a renseigné les violences policières pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et qui anime donc une chaîne Twitch dont on peut retrouver les interviews sur son site internet, hein, et sur d'autres choses, et donc voilà, c'était quand même intéressant de le signaler, quoi. Là on va aller totalement sur autre chose, il nous reste un quart d'heure, donc on va retourner encore une fois à Calais.
Ouais.
Parce que là, pour une fois, on va dire, il se passe des choses intéressantes, très intéressantes, qui nous interpellent. Ouais.
Oui.
Enfin, nous, on s'est pas fait interpeller, mais
oui, parce que effectivement, il y a eu une pratique de squat avec des migrants qui a débuté le 3 février, où il y a eu occupation de deux trucs importants. Il faut savoir qu'à Calais, on n'est pas dans la situation rémoise, puisqu'il y a 1500 migrants qui errent dans les rues, Hein, c'est pas c'est autre chose que ce qu'on peut connaître à Reims. Et il y a eu des tas de discussions avec certains de ces migrants qui ne voulaient, qui en avaient marre de crever de froid, qui en avaient marre de pas avoir de toit, avec des militants de là-bas qui ont décidé d'investir avec eux. C'est deux HLM qui l'un appartenait à la mairie de Calais, l'autre était privé. Cette occupation a eu lieu donc a commencé le 3 février. Tout a été fait normalement dans l'art de se faire reconnaître comme étant un occupant, sauf que ça n'a pas marché. Enfin, il y a eu une décision de justice qui a refusé cette démarche de squatteur. Il faut dire que là, je crois qu'il faudrait peut-être revenir d'ailleurs sur l'évolution qu'il y a eu au niveau de la loi sur les squats. Hein. C'est de plus en plus risqué, difficile.
Alors normalement, il fallait pouvoir justifier en disant qu'on était l'occupant, sans droit ni titre, mais l'occupant habituel. Donc aux yeux de la justice, normalement, c'était 48 heures. Sauf que on sait que dans les faits, les flics souvent s'assoient là-dessus. Et puis maintenant, avec les référés, notamment sur les référés justice du droit de l'immobilier, on n'est plus obligé donc d'utiliser ces arguments-là, quoi. D'autant que normalement, une fois que on est considéré comme l'occupant et que on est rentre dans une procédure d'expulsion, eh ben, on est censé pouvoir bénéficier au moins de la trêve hivernale.
Oui, et puis en plus, surtout, le fait d'avoir un procès pour occupant illégalement un endroit, avec avocat et tout le bazar, appel et tout ce qui tourne autour. Là, ça n'a pas été possible. N'empêche que nous, ce qui nous a interpellés, c'est le fait que cette occupation ait lieu déjà à Calais, où on nous a dit, on a redit que la population était opposée aux migrants. Or, là, il y a une solidarité réelle.
Tu sais dans quel quartier on est ou pas, là?
Je sais pas. C'est dommage, d'ailleurs, qu'on n'a pas pu avoir l'interview en question. C'est dans un quartier populaire, c'est évident. Hein, c'est vraiment.
Ça va être le Marais, je pense.
Ouais. Ce qui fait que il y a une solidarité réelle, bien sûr, au niveau de la bouffe, au niveau des vêtements, au niveau de tout ce qui s'ensuit. Il y a eu le fait que les jeunes se sont amusés pour caillasser un petit peu les flics qui arrivaient. Les flics étaient arrivés dès le début. Hein, pour d'ailleurs, ils étaient en robocoque. Hein, c'était vraiment. Et d'ailleurs, ils sont intervenus le 9 de ce mois-ci, 6 jours après, par l'intermédiaire du RAID. C'est le RAID, vraiment, qui d'habitude intervient dans les trucs des terroristes, des trucs qui est intervenu pour virer.
Alors, dans Schnorr, c'est une vieille habitude, puisqu'on se souvient, vieux complice, qu'il y avait déjà eu des évacuations de squats par le RAID, notamment à Lille, où il y avait un fort mouvement d'occupation et de squats. Et on avait vu les premières interventions du RAID sur les squatteurs. C'est chaud, hein. C'est du matos, c'est du bordel, c'est des cagoules, c'est des flingues, des gros flingues. Ça met une ambiance.
Ça met une ambiance, ouais.
Ce que tu dis, au niveau de la réaction, la préparation certainement qu'il y a eu avant, mais aussi la réaction de solidarité spontanée de la part des gens qui sont là, hein, ça vous met quand même quelque chose bien en balance par rapport à tout le baratin qu'on entend habituellement en disant que 1, les gens sont racistes en France, 2, les pauvres sont racistes en France, 3, les gens pauvres du Nord sont vraiment encore plus racistes que habituellement. Là visiblement non. Et puis aussi, nous, ça nous intéresse parce que pour une fois, on a des gens qui, au lieu de quémander, et de se réfugier dans une position victimaire, ce qu'elles sont, on n'est pas en train de dénier le droit de victime, mais arrête de quémander, se prenne en main et prend ce qu'il y a. Un HLM, c'est fait pour ça. C'est une habitation.
HLM vide, en plus.
Voilà. Donc, comment ça, il y a des HLM vides Ah bon ? Je croyais qu'il y avait un problème de logement, moi, dans ce pays. Ouais. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Et surtout, ça crée un rapport de force parce que l'humanitaire... On aura 10 rapports de force aujourd'hui. Hein. La charité, c'est bien, mais ça fait pas changer les choses.
Ça fait pas changer les choses. Alors, je sais pas si ça va faire changer les choses dans ce cas-là. N'empêche que ça a posé le problème des logements vides dans cette ville de Calais. Ça aurait pu, ça, on pourrait d'ailleurs dire que ça peut le poser dans toutes les villes de France, hein, puisque même à Reims, il y a énormément de logements vides. Je crois que dans le quartier Croix-Rouge, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, voilà. Donc, il y a des gens qui sont pourtant à la rue.
Ouais.
Donc, là, il y a quand même une brèche, il y a quand même un truc à faire. Faire en sorte que ça puisse se revendiquer. Là, il revendiquait clairement le fait qu'il y ait des réquisitions de logements vides pour les gens qui sont dehors.
Et puis, quand les logements sont pas vides, donc non seulement il y a des logements vides qui sont des HLM, donc qui sont construits par l'intermédiaire des fonds déposés par le livret A, hein. Tout ça c'est de l'argent parapublic ou semi-public, hein. Et par contre, ce qu'on fait, on transforme sous le prétexte de la carotte à l'emploi des logements, des beaux logements, hein, des logements de 50 mètres carrés, 60 mètres carrés, voire 80 mètres carrés, en bureaux, ou en leur donnant à des entreprises pour qu'elles viennent s'installer, quoi. Et il y a vraiment une espèce de terrible de voir que on a des appartements qui sont reconstruits en bureaux dans des espèces de pseudo-zones franches et environ 80 mètres en face dans un parc détente avec des gens qui meurent de faim, qui se pèlent. Voilà. Et faut juste traverser la rue, hein, comme dirait l'autre. Hein, voilà. Hein,
c'est et, sûr là, que et là, ils ont traversé la rue. C'est ça qui nous a vraiment... Ça a dû étonner d'ailleurs beaucoup de gens qui ne sont pas de Calais. Hein, même les gens de Boulogne qu'on connaît bien ont été étonnés du fait que ça puisse se faire comme ça, quoi. Et ensuite, ce qui est intéressant tout de même, c'est le fait que ça a été la fête.
Ouais.
Hein, la jeunesse est descendue.
Moi, je me souviens d'une participation à un grand camp qu'on appelait nos Borders. À l'époque, on s'était installé sur des terrains vagues à proximité du quartier qu'on appelle du Marais. Donc, en gros, Calais, c'est 36% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté et 23-25% de la population qui vit avec les minima sociaux. Dans ce quartier du Marais, on est à 60% des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et plus d'un ménage, hein, sur deux qui vit avec les minima sociaux. Et il y avait absolument jamais eu de problème quand c'est fait correctement, quand c'est préparé, quand c'est pas des gens qui imposent quelque chose à quelqu'un d'autre, mais qui expliquent pourquoi ils sont là et qui permettent en plus aux gens de se rencontrer, ne serait-ce que boire un coup, manger, discuter, se présenter, ça se passe plutôt bien. C'est l'exception quand ça se passe mal et pas l'inverse, quoi. Donc là, vraiment, c'est un joli coup, c'est un très très joli coup. Et de toute façon, la situation, tu l'as dit, elle est tellement terrible. La solution et l'alternative pour les migrants là-haut, elle est soit de crever de froid dehors, parce qu'en plus les gens prennent les tentes, les flics prennent les tentes, soit de crever en essayant de passer. Voilà, à un moment...
Oui, en plus, je crois que la pratique de l'État là-bas, c'est quand même quelque chose qu'on a du mal à imaginer. C'est-à-dire que même les trucs humanitaires n'arrivent plus à donner de la bouffe
de l'eau ou de
la soupe le soir, comme ça peut se faire dans toutes les villes de France. Il y a des maraudes.
Ouais.
Hein, là, les maraudes à Calais, c'est pas possible. Les flics interviennent et déversent la soupe en question par terre, carrément. Alors, en plus de détruire les tentes, en plus de
crever les citernes,
en plus d'enlever aux gens leurs papiers, enfin, c'est terrible quand même ce qui se passe là-bas. Et alors là, si tu voulais, là, je crois que les gens ont dû, enfin, qui ne sont pas migrants, ont dû se rendre compte que finalement, ils avaient des liens communs avec ces gens qui crevaient, quoi.
Ouais, et puis de toute façon, les pauvres, en général, la police,
Ils aiment pas.
C'est subjectif ce que tu dis. C'est que on trouve pas beaucoup de secours de la part de ces gens-là. C'est-à-dire que en général, quand on voit les flics, quand on est pauvre et quand on habite dans un quartier, ou quand même quand on est travailleur, c'est pas pour nous demander comment ça va ou si on a besoin d'un coup de main. C'est en général soit parce que on a des problèmes avec une quelconque instance, soit pour se faire taper sur la gueule. Et les deux, trois dernières années qu'on vient de passer avec une grande partie de la population qui a eu des rapports directs avec les forces de l'ordre, ben elles ont bien pris leur fonction au sens premier du terme, conserver l'ordre tel qu'il est, quoi. Peut-être on peut rajouter un mot quand même sur Calais, parce que
il y a eu un procès aujourd'hui à Boulogne-sur-Mer de 6 jeunes qui se sont fait arrêter pour balancer des pierres sur les robocoques qui étaient là. On n'a pas parlé de robocoques blessés, donc à mon avis c'était vraiment complètement ridicule. Et n'empêche qu'il y a eu 6 personnes qui ont été arrêtées, ils sont passés en procès aujourd'hui. D'autres ils repasseront en mars, d'après ce que l'on sait. Il y avait tout de même à Boulogne-sur-Mer une 50aine de personnes pour les accompagner dans ce procès. C'est tout de même pas mal, et quasiment que des jeunes.
D'accord. Il y a un report de l'ensemble de la procédure et le procès aura lieu plus tard.
Voilà.
Alors c'est intéressant, il y a des procès parce que tu sais qu'il y a quelques semaines, on va même dire 2 mois, je crois, il y avait des images qui avaient été sorties par un photographe qui bosse beaucoup là-haut, qui s'appelle Louis Witter, sur les missions, la mission Sentinelle, et ces braves piou-piou qui, dans le dénuement, s'amusaient à se faire du Paris-Dakar dans dans la boue, qui s'étaient retrouvés coincés, mis devant le fait accompli, ils s'étaient retrouvés embourbés. L'armée avait été obligée d'intervenir d'une part et de reconnaître que oui, c'était pas bien. Alors c'est tombé la semaine dernière. Les soldats et les militaires impliqués dans cette histoire ont eu des sanctions exemplaires.
Mais des blâmes.
Non, on ne sait pas lesquelles.
C'est-à-dire que
les sanctions sont exemplaires, mais l'armée ne communique pas. Pourquoi ? Pour pas qu'il y ait de publicité. Alors, on va pas demander à un militaire de réfléchir, mais pour que ça soit exemplaire, faut quand même qu'il y ait une certaine publicité. Mais le ministère de l'armée a dit qu'il ne communiquerait pas. Mais en tous les cas, les sanctions sont exemplaires. Ça, vous pouvez être sûr de cela. Voilà. c'est tout à fait le genre de à ce genre de subtilité et de beauté du geste qu'on reconnaît l'armée française, qui jamais ne nous déçoit. Quand on attend quelque chose d'elle.
Allez, on va se quitter là-dessus et puis on se retrouve la semaine prochaine.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.